Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, le poème provisoire de Sylvie Neve. Puis dans 30 minutes, le journal de tumulte avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 980. Jean au micro, salut. Et musique pour commencer avec le groupe Menomena, Friend and Foe. C'était le groupe Menomena, extrait de l'album Friend and Foe. On enchaîne avec Can, extrait de l'album Edge Bamiyazi. Et juste après, dans le magazine Tumulte, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve. Après la musique de Cannes, le poème provisoire de Sylvie Neve.
Mit Urlauten.
Le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois.
Bonjour tumulte. Et aujourd'hui, un contenu un peu particulier, au poème provisoire. Pas seulement un ou deux poèmes provisoires, mais aussi un peu d'explication. Voilà, dans les 6 mois qui vont venir, je propose au public de Tumulte de me retrouver autour d'un feuilleton qui est aussi une réécriture d'un conte médiéval du XIIe siècle, un conte anonyme, « Le lait de Mélion ». Le mot « lait » signifiait le chant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lait de Mélion et dans quel cadre je réécris ce conte? Depuis 2-3 ans, un festival de contes et légendes, le Festival des Chimères de Bernicourt, m'accueille. Accueil, mes réécritures, l'une de poussée, l'autre ce mois de mai passé, la réécriture de Peau d'âne, dans un duo avec une percussionniste dont j'avais parlé ici même. Et pour l'année prochaine, le thème de leur festival est le loup. Une création de conte musical est programmée, commandée à Jacques Chab, qui est un musicien de l'Opéra de Lille. Et j'ai de mon côté proposé également un conte musical avec une formation plus restreinte autour d'un loup ancien. Le conte musical de Jacques Chab célébrera un loup contemporain. Le mien est un loup du XIIe siècle, plus exactement un chevalier loup-garou. Alors cette histoire est très particulière, pas tout à fait pour les enfants, elle est tout public certainement, mais elle comporte un certain nombre d'étrangetés et de zones d'ombre. Alors je vais d'abord vous la raconter, et puis au fil des mois, vous la retrouverez mise en vers à ma façon. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous raconter ce lait. Mélion est un chevalier qui vit à la cour du roi Arthur, et il pose, à l'occasion d'une fête courtoise, il pose un défi. Il jure de n'épouser une femme que si elle n'a pas aimé auparavant un autre homme que lui, et même jamais prononcé le nom d'un homme. Évidemment, c'est un défi extrêmement difficile à réaliser, surtout en pleine époque courtoise, où l'amour qui est célébré, c'est l'amour pour la dame, c'est-à-dire l'épouse du seigneur. Très peu de pucelles, en fait, à l'époque féodale. Il faut pas perdre ça de vue. Donc ce conte d'emblée pose une situation impossible. Un chevalier à la cour d'Arthur qui ne veut épouser qu'une femme vierge, et particulièrement vierge, puisqu'elle n'aura pas aimé d'autre homme que lui et ni même prononcé un autre nom d'homme. Alors, ça se passe très mal pour lui. Le début du conte, ça se passe mal, les femmes lui tournent le dos, et il est obligé finalement de quitter la cour du roi Arthur. Mais Arthur l'a à la bonne et lui propose un fief, une terre, vers la mer. Donc, Mélion part avec des écuyers, il s'installe dans son château entouré de rivières et de bois et il part chasser régulièrement. Un jour qu'il part à la chasse, passe un grand cerf qu'il relâche aussitôt et immédiatement après le grand cerf apparaît une demoiselle extraordinaire, très belle, qui annonce à Mélion tout de go qu'elle arrive d'Irlande, qu'elle n'a jamais aimé personne avant lui. Bref, elle vient le rencontrer parce qu'elle a entendu parler de son défi et elle est prête à le relever, elle veut l'épouser. Mélion est ravi, il l'épouse et vit 3 années très heureuses avec elle. Ils ont des enfants. Voilà, première partie du conte. Les choses vont se gâter. Un jour, il va à la chasse avec sa femme qui aime beaucoup la chasse. Il poursuit un gibier et tout à coup, de nouveau, un grand cerf qui passe par là. Mélion de nouveau refuse de mettre à mort le grand cerf, le libère. Sa femme alors tombe de cheval et déclare qu'elle ne mangera plus jamais si elle ne mange pas de ce cerf. Alors, et elle tombe sans connaissance. Mais Lion, très embêté, la ranime et lui promet, il ne peut rien refuser à sa chère épouse, mère de ses enfants, il lui promet d'aller chasser ce cerf et d'en ramener un morceau dont elle pourra se nourrir. Mais pour cela, il lui explique quelque chose que personne ne sait autour de lui. Donc il l'attire derrière un fourré, il lui montre une bague étrange qu'il a au doigt, faite de deux chatons de couleurs différentes. Il lui explique que si elle lui frotte le dos du chaton rouge, il va se transformer en loup. Et qu'il ne pourra retrouver sa corpulence d'homme que si elle lui frotte l'échine du chaton blanc. Alors, il se déshabille, il se met nu, il laisse ses vêtements. Évidemment, il lui dit bien de l'attendre. Elle lui frotte le cou du chaton rouge. Le voilà qui se transforme en loup grand et corsu, dit le texte, très joliment. Et le voilà parti à la chasse au cerf. Il se bat rudement avec le cerf, qu'il a à deux reprises laissé repartir. Mais là, il se bat comme loup avec ce cerf. Il lui arrache un morceau de viande. Et il repart au galop vers sa chère épouse. Et là, plus d'épouse. Plus d'épouse, plus de vêtements, pas de bagues, plus d'écuyer, personne. Alors, mais Lion est fou de douleur, il appelle sa femme, mais ce sont des hurlements qui sortent de sa gueule. Alors, il cherche, et il cherche partout, et il va vers la mer. Un bateau a pris le large, et il entend que l'épouse de Mélion est montée dans ce bateau avec un écuyer et qu'elle est partie rejoindre le château de son père. Alors Mélion n'a plus qu'une hâte, c'est retrouver son épouse et lui faire chèrement payer cette traîtrise. Il bondit à son tour dans un bateau, alors il est poursuivi par les matelots qui le découvrent dans le fond du bateau. Il parvient à débarquer en Irlande, il va mettre la terre d'Irlande à sac avec une bande de loups, le roi d'Irlande va le chasser. Bah, tout ça dure très longtemps parce qu'il est coincé dans sa corpulence et son statut de loup, enfin son corps de loup, pendant un temps très très long. Un jour, heureusement pour lui, Arthur débarque avec Gauvin et toute la cour d'Arthur. Alors Mélion les reconnaît, bien sûr, il s'attache à leurs pas et réussit à venir se coucher au pied du roi. Le roi, touché et intrigué, l'adopte et l'emmène désormais partout avec lui, et notamment à la cour du roi d'Irlande. Un jour qu'à la cour du roi d'Irlande, Arthur est reçu, entre l'écuyer qui est parti avec la femme de Mélion. Alors le loup le reconnaît, se rue, se jette sur lui, et maintenu à terre par le loup-garou, l'homme avoue toute la vérité. Convoquée, la fille du roi et épouse de Mélion vient rendre l'anneau. Alors Mélion peut alors redevenir homme. Il souhaite toucher, frotter sa femme de l'anneau, mais on l'empêche. On intercède pour elle, elle est quand même la mère de deux beaux garçons. Il refuse alors de la reprendre et repart en Angleterre. Alors, c'est un conte assez énigmatique, cette femme dont on ne sait rien. Bon, je pense enfin, que peut-être comme moi, vous avez entendu qu'elle a quand même un lien particulier avec le grand cerf, selon moi. Donc bien sûr, dans ma réécriture, je vais faire un peu plus entendre ce lien étrange qu'elle a avec ce grand cerf. Et voilà, c'est donc ce conte que je vais réécrire dans les mois qui viennent et que j'ai déjà commencé à travailler. Alors, j'ai tout de suite eu l'idée que ce conte serait un conte musical et pas seulement une réécriture. J'ai donc contacté un jeune compositeur d'Arras qui s'appelle Vincent Vimard, qui compose pour la percussion, mais aussi pour le piano, le violoncelle. Et il était tout à fait partant pour cette belle aventure artistique. Nous avons contacté ensemble Isabelle Henrich qui est pianiste, Éric Perrier qui est clarinettiste et Valérie Chouanière qui est chanteuse lyrique. Il y aura donc un récitant lecteur moi-même, une chanteuse pour les chants, deux instruments piano et clarinette pour les instruments de musique, Vincent Vimard à la composition, Sylvie Neve à l'écriture. Deux chants aujourd'hui, le défi courtois et le chant de la métamorphose. Le défi courtois. Aimer, aimer, un jour aimer, mais n'aimer que, choisir d'aimer, faire vœu de n'aimer jamais que jeune fille, je ne me fie à jamais, oh jamais, aimerais-je. J'aimerais aimer jeune fille, mais jeune fille qui ne l'aimait que si belle et si noble fut-elle. Je ne me lie, chevalier Mélion, que ne me lie-je, si belle et noble fut-elle. N'aimerais jeune fille que l'aimer qui, et seulement si, jeune fille qui, et celle-là seule, n'aura jamais aimé un homme avant moi, ni même prononcé le nom d'un homme. Chant de la métamorphose. Devenir loup pour vous, madame. Devenir loup pour vous, madame. Loup deviendrait pour vous, ma femme. Loup deviendrait pour vous seul, loup. Grand et fort, un fort grand loup. Pour l'amour de vous, deviendrait, d'où reviendra, votre goût ancien. Pour le grand cerf, pour sa viande. Moi, un homme, deviendrai loup à votre goût, me souvenir loup, chair de cerf, chair morcielle, me dévie d'homme, deux corps, une seule âme, corps d'homme au vu de tous, corps de loup au vu de vous. C'est dit, je deviens loup pour vous seul, l'or devient loup, grand et corsu. L'or devient le, grand et corsu, pour vous. Melody, summer name, come se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam. C'était le poème provisoire de Sylvie Neve. Prochaine édition, le troisième tumulte du mois de novembre.
Ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, a já ani sen tady, ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno jsme oba zpět, a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Musique avec Ménoména que l'on retrouve, et juste ensuite, ce sera le journal de Tumult avec Guy, invité Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1.
Guess something's never changed, and I still hope.
journal de tumulte avec Guy. Au sommaire de ce journal, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille. Nous parlerons avec lui du prix Nobel d'économie attribué à Paul Krugman et puis évidemment de la crise financière, crise économique, les suites. Laurent était avec nous il y a un mois, ce qui s'est passé depuis un mois, les différents plans anti-crise, les conséquences sur l'économie réelle et puis les raisons de fond ou les solutions de fond. Salut Laurent, salut Guy. Pour commencer, donc le prix Nobel d'économie attribué à Paul Krugman, une attribution qui vient en plein dans le cadre d'une crise économique ou crise financière, ça peut toujours être significatif.
Ça peut toujours être interprété. Ça peut toujours être interprété. Paul Krugman est un économiste américain qui a surtout fait des travaux dans le domaine de la concurrence internationale et du fonctionnement d'une économie ouverte au commerce extérieur. Et il a des contributions assez reconnues, en particulier dans ce qu'on peut appeler l'économie géographique, mais sans se méprendre, c'est-à-dire les explications qu'on peut donner aux localisations des activités économiques sur les territoires. Donc il a fait dans ce domaine-là des incursions assez pionnières. Et par ailleurs, il a effectivement un petit peu modifié la conception des raisons pour lesquelles il convient d'être libre-échangiste au niveau international, en apportant un argument qui n'était jusqu'ici pas mobilisé par la théorie économique, en expliquant que la rationalité d'une ouverture au commerce extérieur, c'est de permettre aux firmes de faire des économies d'échelle en produisant sur une plus grande échelle et en vendant à davantage de clients dans le monde. C'est pas quelque chose de complètement ébouriffant. C'est quelque chose qu'on peut penser dans son coin sans forcément le mettre en langage mathématique, mais toujours est-il que ce n'était avant lui pas forcément une raison reconnue par l'académie. Alors c'est peut-être moins pour la grandeur de son œuvre que ce prix Nobel est intéressant, même si c'est sans doute pas ce qui a déterminé l'académie de Stockholm. C'est qu'effectivement Paul Krugman est un économiste devenu très critique du libéralisme économique, mais surtout du conservatisme économique tel qu'il a été traduit dans la politique de Bush, et en particulier très critique de la façon dont les républicains aux États-Unis s'y sont pris, mais ils n'étaient pas les seuls, pour liquider l'héritage du New Deal. Donc ça l'amène à prendre des positions assez assez radicales aujourd'hui dans ses chroniques au New York Times. Moi, ce qui m'étonne toujours chez ces économistes-là, c'est leur schizophrénie. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont théoriciens et qu'on regarde les instruments qu'ils utilisent, bah, c'est des instruments très très orthodoxes. Et finalement, qui ne leur permet pas d'asseoir les positions qu'ils tiennent quand ils tiennent des positions, pour le coup, raisonnables, dans les tribunes politiques, si j'ose dire. Bizarrement, ces gens-là, dans leurs outils d'analyse, il faudrait vraiment se pencher pour y trouver le capitalisme. Grosso modo, ils font la théorie d'une économie de marché, mais ils font pas la théorie du capitalisme, de la dynamique de l'accumulation du capital, de la dynamique de la répartition des revenus et ces choses-là. Ce qui fait que ça fait toujours bizarre de les entendre ensuite prendre des positions raisonnables qui généralement sont keynésiennes, alors même qu'ils passent leur temps à développer une théorie qui est orthogonale par rapport à ça. Voilà, c'est à peu près la seule réflexion que ça... C'est un peu un profil à la Stiglitz, finalement.
D'accord. Eh bien, on va passer à la crise. Alors, tu étais sur Radio PFM dans Tumulte il y a un mois à peu près. C'était le 16 septembre. À ce moment-là, tu nous avais dressé un tableau un peu de la crise financière telle qu'elle s'était présentée aux États-Unis avec le mécanisme de l'éclatement de la bulle financière, le mécanisme des subprimes, que tu nous avais déjà abondamment expliqué il y a plusieurs mois. Et ensuite, eh ben, on va mesurer le chemin parcouru depuis. La question, c'était, est-ce que cette crise financière va s'étendre au niveau mondial? Quelles vont être ses conséquences, en particulier en Europe? Donc ça, c'est un peu le premier point, mesurer le chemin parcouru, qu'est-ce qui s'est passé depuis. Après, on pourra revenir peut-être sur les différents plans anti-crise qui ont été présentés aux États-Unis et en France. Bon, il y a toujours cette question qui est quand même la question que tout le monde se pose, quoi. Ces milliards, ces centaines de milliards d'euros ou de dollars qui ont été trouvés, où est-ce qu'ils ont été trouvés? Ils sont toujours mis en balance avec la difficulté pour les États à trouver des finances pour l'éducation, pour le social, etc. Donc on met toujours en balance ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette somme? Bon, quelles sont les conséquences de la crise au niveau économique, hein? Évidemment, la question du chômage, on annonce 20 millions de chômeurs en plus au niveau mondial. Puis peut-être dans un dernier temps, les raisons de fond et puis les solutions de fond. Alors peut-être d'abord, pour commencer, le chemin parcouru par la crise.
Le chemin parcouru par la crise, grosso modo, il y a eu qu'une véritable nouveauté depuis un mois, parce que la crise avait déjà atteint l'Europe, hein, certaines banques avaient déjà dû enregistrer des pertes liées au problème des subprimes. Les banques européennes étaient emportées dans la même crise d'illiquidité que les autres banques mondiales, du fait de ces pertes subies sur ces actifs toxiques. Elles ne se prêtaient plus entre elles. Donc ça, c'était déjà des mouvements qui étaient arrivés et qui avaient percuté le système financier européen. La vraie nouveauté, c'est que le risque majeur, qui est celui finalement d'un retrait massif des dépôts par l'ensemble des déposants, c'est-à-dire toi et moi, ce risque a failli se matérialiser à différentes occasions. Et donc là, il a fallu que l'ensemble des gouvernements répondent pour essayer de cantonner absolument cette panique, c'est-à-dire finalement que le deuxième rideau se lève après la crise de liquidité entre les banques, une crise de liquidité totale où les déposants voudraient retirer leurs avoirs bancaires, précipitant les banques dans des faillites ou des défauts de paiement en chaîne. Donc c'est essentiellement cette barrière-là qui a failli être franchie et à laquelle ont voulu répondre les autorités européennes, à la fois en garantissant davantage les dépôts monétaires dans les banques ou les dépôts d'épargne, et puis en essayant de réactiver le crédit interbancaire pour que les banques acceptent de nouveau de se faire crédit lorsqu'elles ont des déséquilibres de paiement entre elles, ce qui est une condition pour qu'elles puissent accepter de faire du crédit aux autres. Parce que quand on fait du crédit aux autres, on fait face au risque ensuite d'avoir des paiements interbancaires à effectuer et donc des dettes à devoir régler d'une banque à une autre. Donc c'est essentiellement pour essayer de relancer le crédit et d'éviter le risque de bankrun, quoi, c'est-à-dire de retrait des dépôts que les plans ont été adoptés.
Oui, alors on est arrivé en fait directement dans les plans anti-crise, enfin les digues qui ont été disposés. Bon, ce qu'on aimerait comprendre, ce sont ces centaines de milliards là d'euros ou de dollars qui sont mis en jeu. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a effectivement quelque part des sommes qui sont mises en réserve. Ou bien est-ce que c'est de la fabrication de la monnaie, c'est-à-dire on fait ce qu'on dit marcher la planche à billets, ou bien est-ce que ce sont des garanties, l'État apporte sa garantie et la somme n'est jamais dépensée?
Alors oui, c'est vraiment la question la plus intéressante, parce que y compris politiquement, elle fait tourner un peu tout le monde en bourrique. Donc il faut distinguer les deux réponses, hein. La réponse sur le risque de retrait des dépôts, bon ben ça c'est la garantie qui est donnée sur les dépôts des banques, mais il y a une des mesures qui est un peu à cheval entre les deux, qui consiste à dire, pour rassurer les déposants, il faut aussi montrer que les banques sont correctement capitalisées, C'est-à-dire que leurs fonds propres sont relativement importants par rapport à leurs dettes et que même en cas de faillite, bon, voilà. Mais en réalité, en cas de faillite, leurs fonds propres, de toute façon, ne seraient pas suffisamment importants. Bon, mais donc il y a une partie du plan qui consiste à dire, bon, il faut recapitaliser les banques. Puis il y a une autre partie du plan qui consiste à dire, ben, puisque les prêts de la Banque Centrale Européenne qui ont été faits aux banques, ou les prêts de la Fed qui ont été faits aux banques pour leur fournir des liquidités à court terme, finalement n'ont pas permis de réamorcer durablement le crédit, ce qu'il faut faire, c'est mettre à l'aise les banques en leur faisant du crédit à plus long terme. C'est-à-dire que cet argent doit leur être prêté à plus long terme que ce que font les autorités monétaires pour les refinancer au jour le jour ou à une semaine, deux semaines et au maximum trois mois. Donc les États européens se sont demandé comment on pouvait garantir des prêts aux banques ou débloquer des prêts aux banques dans une période de 1 à 5 ans pour les rassurer sur leur disponibilité en termes de liquidité. Et le plan français là-dessus, qui est un plan de 320 milliards d'euros sur ce volet, consiste à dire, ben, l'État va créer une structure spéciale qui va prêter de l'argent aux banques, puisqu'elles ne veulent plus se prêter entre elles, sur des délais justement de 1 à 5 ans. Et pour prêter cet argent aux banques, l'État va lui-même emprunter. Donc on crée un dispositif qui est finalement un vecteur un petit peu transparent. L'État emprunte d'un côté pour reprêter aux banques de l'autre. L'idée étant que lui peut le faire, alors que les banques n'y arrivent plus en ce moment.
L'État emprunte à qui ?
Alors dans ce type de dispositif, l'État emprunte... Alors je ne connais pas tous les détails du dispositif, et puis il est en train de se préciser quasiment en temps réel. Bon, mais a priori... Sans préjuger de tout ce qui sera défini par la suite, mais a priori l'État peut emprunter à tous les prêteurs qui se présentent, c'est-à-dire les particuliers, la Caisse des dépôts et consignations, si elle a des liquidités, les banques elles-mêmes, parce qu'elles veulent peut-être plus prêter leurs liquidités entre elles, mais elles sont peut-être prêtes à prêter ces liquidités à l'État.
Ouais, mais qui va prêter de l'argent, qui va leur revenir.
Exactement, tout à fait. Il n'est pas du tout impossible que le crédit agricole prête par ce dispositif à l'État, moins que l'État l'interdise, hein, mais je vois pas pourquoi, et puis que l'État le reprête au CIC. Bon. Et donc
avec des taux.
Alors dans ce cas-là, l'État finalement aurait fait une espèce de dérivation dans le circuit de la finance, mais qui permet quand même que les banques se prêtent entre elles en passant par ce dispositif qui garantit les préfets à l'État.
Il y a quand même, moi j'ai entendu ce matin, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il y a quand même 10 milliards d'euros qui vont être...
Alors ça, c'est l'autre volet. C'est le volet recapitalisation.
On va laisser finir celui-là.
Donc effectivement, on va les traiter tous les deux, mais c'est un autre volet, c'est un dispositif différent, dont le but est différent et dont le fonctionnement est différent. Là, sur la plus grosse somme qui a été annoncée, les 320 milliards... Les autres 40 milliards des 360, c'est de la recapitalisation. Sur cette somme-là, le principe est bien celui-là, hein, c'est réussir à prêter aux banques ce que les banques ne veulent pas se prêter entre elles en faisant une dérivation dans le circuit de la finance. Bon, alors donc les prêteurs, bon, c'est les ménages, directement ou indirectement, en réalité indirectement, à travers leur fonds d'épargne, leur fonds de pension, leur SICAV, leur fonds commun de placement, etc., voilà, c'est un peu les agents économiques qui peuvent prêter à l'État. Cet argent, donc, d'une certaine façon, existe, mais sous forme de liquidité inactive sur les avoirs en compte de tous ces agents, que ce soit les ménages, la Caisse des dépôts et consignations, les banques ou les fonds d'investissement, etc. Donc cet argent existe, simplement il s'agit de le mobiliser une nouvelle fois pour qu'il soit reprêté. Bon. Et c'est d'ailleurs déjà de l'argent qui a été prêté X fois. Hein. On ne suit pas comme ça facilement le parcours d'un avoir en compte courant. Donc il s'agit de mobiliser des liquidités qui existent pour les reprêter au circuit bancaire. Et ils n'ont pas d'aller puiser dans un trésor que l'État aurait caché quelque part. ou
ni prélever, fabriquer de la monnaie,
ni fabriquer de la monnaie dans ce cas-là, hein, ni prélever l'impôt au moins à court terme pour alimenter cette caisse. La fabrication de la monnaie, elle, c'était le dispositif de renflouement des banques par les banques centrales. Alors là, effectivement, c'est équivalent à la planche à billets, sauf que on n'édite pas des billets, on inscrit directement des avoirs en compte pour les banques commerciales pour qu'elles puissent faire face à leurs besoins de trésorerie provisoire. Et là, effectivement, on était dans un système de création monétaire.
Mais alors bon, cet argent à mobiliser, il n'est pas mobilisable instantanément, donc c'est...
Non, alors là, j'aimerais bien voir combien de temps ça prend de bâtir ce type d'institution et d'émettre les premières obligations pour lever les premiers fonds et pouvoir ensuite le prêter aux banques. J'avoue que je me demande si le temps de réaction peut être... à la hauteur de l'urgence. Bon, c'est une vraie question. Et pendant cet intervalle de temps, les banques continuent à être réticentes à se refinancer, et donc elles continuent à être réticentes à faire du crédit à l'économie. Pour l'État, ce type de dispositif pourrait se révéler une affaire pas trop mauvaise, parce que l'État, ayant une très bonne signature et sa dette étant digne de confiance, et il peut emprunter à des taux relativement bas, de l'ordre de 5 à 6%. Mais de l'autre côté, il va reprêter aux banques aux conditions du marché, c'est-à-dire 3 à 4 points au-dessus, de l'ordre de 9 à 10%. Donc au passage, voilà, ça peut faire une petite rentrée intéressante pour l'État. Évidemment, si dans l'intervalle, aucune banque ne fait faillite et ne fait défaut sur l'argent que l'État lui aura prêté. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce dispositif qui assumera le risque qui a été pris, et au bout du compte, derrière ce dispositif, c'est nous. C'est-à-dire que si ensuite il faut vraiment combler la faillite d'une banque et un non-remboursement des banques vis-à-vis de ce dispositif, là c'est sûr qu'en dernière instance, c'est les contribuables qui paieront.
Alors avant de passer à l'aspect que soulevait Guy, on a parlé de garanties apportées par l'État. C'est-à-dire l'État, alors l'exemple que j'ai entendu moi à la radio, c'est vos enfants prennent un appartement en location, vous apportez votre garantie. Vous apportez votre garantie sur le paiement du loyer. Donc là, c'est
la caution.
Votre caution, voilà, oui. Et donc la somme, vous ne la sortez pas, sauf si...
Oui, mais ça il me semble que c'est comme ça que ça a été formulé au niveau européen, des garanties fournies par les États sur les prêts interbancaires. Hein, donc les États auraient garanti les prêts faits par le CIC au Crédit Agricole, par exemple. Ça veut dire qu'en cas de défaut de remboursement dans 2 ans ou 3 ans du Crédit Agricole, bah, l'État aurait assumé ce remboursement à la place du Crédit Agricole. Bon, ça c'est comme ça que ça a été présenté au niveau européen, mais d'après ce que j'ai compris, et c'est en train de changer parce que dans l'application des dispositifs, on s'aperçoit que c'est pas le même truc qui se passe que dans les effets d'annonce, mais en France, c'est un dispositif plus compliqué, celui qu'on vient d'énoncer, en fait, qui n'est pas aussi direct que d'annoncer cette garantie sur les prêts interbancaires. Au contraire, l'État se sert de la qualité de sa signature pour garantir la dette qu'il émet, et ils reprêtent aux banques. Donc il y a vraiment une institution de prêt et reprêt qui est créée, et la garantie de l'État porte sur sa propre dette. Hein. Tandis que dans un pays comme l'Allemagne, apparemment, d'après ce que j'ai compris, on va garantir directement les prêts interbancaires.
Voilà, pour reprendre l'exemple que tu citais, genre sur la caution, hein, pour un appartement. Quelqu'un prend un appartement, il a besoin d'une caution, un jeune, donc c'est ses parents. Donc les parents ne payent pas, elle est pas versée. Ils ne payent que si le loyer n'est pas payé. Donc l'État, il fonctionne comme ça. Donc là, il n'y a pas non plus de système
de... Oui, tout à fait, mais dans le cas de l'Allemagne, il n'y a pas de sortie d'argent du tout. Bon, ça veut dire que tant que ça marche et tant qu'il n'y a pas une banque qui fait défaut sur ses prêts vis-à-vis d'une autre banque. Donc effectivement, il n'y a pas d'argent à sortir dans ce type de dispositif. Et dans le dispositif français, il n'y a pas d'argent public non plus à sortir. Il y a emprunt d'un côté de l'épargne du public et prêt de cette épargne aux banques, bon, avec une garantie donnée par l'État que si les banques ne remboursent pas, c'est l'État qui remboursera les prêteurs. Voilà.
D'accord. Donc ça ne coûte pas, entre guillemets,
au contribuable.
Si ça marche.
Oui, exactement.
Mmh. Si ça marche.
Si ça marche pas, les pertes seront socialisées et effectivement, il faudra prélever l'impôt pour...
Il faudra mettre la main au porte-monnaie. Et ça va marcher?
C'est ça la question.
Ouais,
en fait, hein.
Ouais, mais
c'est
là,
ça qu'on demande aux économistes.
Là, exactement, mais il fallait inviter Madame Irma. J'en sais rien du tout. Je suis bien incapable de faire des prophéties. Et il faudra vraiment connaître finement l'état réel des comptes bancaires. Et surtout, on sait que ces choses-là peuvent voler en éclats par une simple panique qui se met en boule. Et qui fait éclater tout le compromis qui a été créé. Donc le rôle de ces dispositifs, d'ailleurs, c'est surtout de la psychologie. À la limite, les 350 milliards, ils serviront jamais. On lèvera jamais 350 milliards pour aller renflouer les banques. Mais bon, ça sécurise le public de savoir qu'on a fait quelque chose. Et donc on essaie d'avoir exorcisé le risque de panique bancaire et de retrait de dépôt par ce type de mesure.
Mais bon, on entend parler hein, de moraliser le capitalisme, Sarkozy, etc. Mais en fin de compte, bon, ce que tu nous expliques, on reste toujours dans la même idéologie. Enfin, on en reste toujours à jouer avec l'argent. Donc
pour l'instant, effectivement, on est dans
un système de capitalisme financier. Quoi.
Bah là, on est dans les mesures d'urgence. Il y a quasiment aucune règle du jeu qui a été bouleversée. Alors, enfin, il faut pas. Faut pas être. Alors peut-être qu'on va le traiter dans un instant. Ces conséquences-là, mais il faut venir sur le deuxième dispositif, qui est celui de la recapitalisation et qui a été mis en œuvre, qui a commencé à être mis en œuvre aujourd'hui, puisque l'État a débloqué 10 milliards pour recapitaliser les principales banques françaises. Alors peut-être qu'on va pas être trop long là-dessus, mais
donc là ça veut dire quoi? C'est on réinjecte 10 milliards dans
alors,
les...
Normalement une recapitalisation, ça voudrait dire que l'État achète des actions nouvellement émises, pas celles qui traînent sur le marché, pas celles qui sont déjà dans les portefeuilles des agents, mais achète des actions nouvellement émises par ces banques pour en contrepartie leur donner du capital liquide qu'ensuite la banque ne doit plus rembourser. Et l'État devient propriétaire de la banque en contrepartie d'un apport qui, pour la banque, est définitif. Ensuite, l'État pourra revendre ses actions à quelqu'un d'autre, à des épargnants, s'il veut, dans 2 ans. Mais recapitaliser
Nationaliser.
Une banque, c'est de la nationaliser en partie. Bizarrement, moi, c'est ce que j'avais compris. Mais aujourd'hui, d'après ce qu'on lit et ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est pas de la prise de participation réelle au capital des banques. C'est un prêt durable, de long terme.
Faudra pas forcément rembourser, quoi, c'est ça.
Oui. Enfin, que les banques auront peut-être le souci de rembourser parce que visiblement l'État va leur faire payer cher ce prêt. Là encore, il y aura cette différence à peu près de 4 points. Avec le taux de la dette publique, et donc là aussi l'État fait plutôt une bonne affaire si ça marche bien en prêtant durablement cet argent aux banques. Bizarrement, je trouve un petit peu personnellement je trouve ça un petit peu curieux qu'on ne procède pas à une vraie recapitalisation par achat d'actions. J'imagine que les banques n'ont pas voulu de ce système et donc il y a dû y avoir des tractations dans les couloirs. Parce que évidemment, un tel système dilue la propriété du capital de la banque. Hein, vous rémettez 30% d'actions supplémentaires, par exemple, les anciens actionnaires, ils voient tout d'un coup perdre 30% de la propriété qu'ils pensaient avoir sur la banque. Et donc, ils voient perdre 30% du droit à répartir les bénéfices de la banque. C'est ce qu'on appelle de la dilution, de leur point de vue, de leur capital et du bénéfice. Mais enfin, tout de même, ça me paraît normal de ne pas aller aider les actionnaires dans cette période où, théoriquement, ils ont pris les risques qui sont les risques de l'entreprise privée en étant justement actionnaire. Donc, je trouve que c'est vrai, on parle pas beaucoup de morale dans cette période et on a peut-être un petit peu raison, c'est pas l'urgence, mais il y a des façons de faire qui sont plus ou moins justes, plus ou moins droites, et bizarrement, c'est pas celle-là qu'on semble avoir empruntée.
Alors on va venir dans un instant sur les questions de fond, entre guillemets, et les solutions de fond, moraliser le capitalisme, refonder le capitalisme, etc. Mais auparavant, bon, les conséquences de la crise financière sur ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire en termes sensibles pour tout le monde, à savoir la question de l'emploi, la question des niveaux de vie, le creusement des inégalités, et en particulier au niveau mondial aussi, pas simplement dans chaque société prise une à une, mais aussi au niveau mondial. Alors on annonce 20 millions de chômeurs en plus au niveau mondial. Bon,
oui, bah si on
c'est compte, la conséquence ouais. de la récession.
Oui.
L'effet mécanique.
C'est l'effet mécanique de la récession, et les deux principaux canaux dans un pays comme la France, c'est un, le rationnement du crédit dont on a parlé tout à l'heure. Et si les banques ne veulent plus prêter, les entreprises ne peuvent plus mettre en route de nouveaux projets d'investissement. Ou même pire, risquent de faire défaut sur leur capacité à rembourser leurs propres dettes, et donc peuvent être mises en faillite, alors même qu'elles sont plutôt rentables et en bonne santé. Mais périodiquement, les entreprises doivent faire face au paiement de leurs dettes, et généralement, elles ne remboursent pas leurs dettes, elles réempruntent pour les restructurer. Si elles ne peuvent plus réemprunter, elles peuvent tout à fait être mises en faillite, alors même que leur compte d'exploitation était correct. Donc, rationnement du crédit qui empêche les projets d'investissement de se développer. Et puis, deuxième canal, c'est vrai que dans ce genre de turbulence économique, comme on dit, le climat des affaires se détériore. Et donc, grosso modo, les entreprises mettent en sommeil les projets les plus ambitieux parce que on juge que la période est risquée, parce que déjà, on anticipe une baisse de la demande alors qu'elle ne s'est pas encore produite. Et le simple fait de l'anticiper la provoque, cette baisse de la demande. Donc, les conséquences réelles, ça peut être davantage de faillites d'entreprises. Et déjà, les statistiques disent qu'au troisième trimestre de l'année, il y a eu 17% de défaillances d'entreprises en plus que d'habitude. Et puis, pour le coup, pas que des petites entreprises qui ont été ouvertes l'année dernière, hein, parce que c'est 23% de défaillances en plus dans l'industrie. Bon, donc ça concerne, on doit s'en douter, des entreprises importantes. Des entreprises comme Dunlopillo, par exemple, sont déjà, semble-t-il, dans la tourmente. Donc la conséquence va être effectivement une réduction importante de l'activité et du chômage.
Est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer au niveau mondial dans les rapports Nord-Sud ? Parce que c'est quelque chose qu'on ignore totalement dans les commentaires écoutés, par exemple, sur les radios. On a l'impression que le Sud passe à côté de la crise financière. Pourtant, bon, on a vu les émeutes de la faim, dont une des raisons a été donnée, c'est la spéculation qui s'est reportée sur les céréales. Est-ce que les pays du Sud vont être touchés par...
Alors, il semble, alors là, il faut être prudent aussi, il semble qu'ils sont moins directement touchés par le volet strictement financier de la crise, dans la mesure où leurs banques se sont moins aventurées, étaient moins insérées dans le tourbillon de l'économie de casino, et se sont donc moins retrouvées scotchées avec l'histoire des crédits subprime. Ceci dit, ces pays-là subiront quand même les contre-coups de cette crise, parce que le ralentissement économique en Europe et aux États-Unis n'est pas bon pour eux, simplement parce que sur leur volet d'exportation, qui tire aussi leur économie, ils vont se retrouver avec des marchés extérieurs qui ne sont pas en croissance. Donc de ce point de vue-là, ils vont subir le choc. Et je crois quand même que ça redessine une donne un petit peu intéressante, c'est que on a entendu à l'ONU ces pays en développement faire comprendre aux États-Unis que ce coup-ci, ça les intéressait un petit peu la manière dont la crise allait se régler, parce que tout le monde était dans la même barque. Et je crois que c'est un effet politique intéressant de cette crise, c'est que beaucoup de pays commencent à se dire bon, ok, c'est mondialisé, mais du coup que c'est mondialisé, il y a quand même un concernement collectif quand quelqu'un fait quelque chose à un endroit donné. Et donc la manière dont l'économie américaine est organisée et la manière dont elle structure et norme et régule sa finance, mais peut-être pas seulement sa finance, concerne tout le monde. Et cette voix commence à se faire entendre, et notre président, Nicolas Sarkozy, joue un peu sur cette corde tout de même, en disant vous voyez, là maintenant il faut un sommet mondial, et puis ça peut se passer chez vous, parce que quand même c'est de là que le coup est parti. Et sortant la petite musique, demain on peut pas reprendre le train-train tel qu'il était avant. Donc ça, je trouve que politiquement, c'est tout à fait intéressant ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Et les pays en voie de développement sont un peu les premiers à pousser cette musique.
Alors, une des conséquences qui est passée plus ou moins inaperçue, mais bon, qu'on a entendu et qui est un peu étonnante de la crise, c'est les risques de faillite pour les collectivités locales. On a appris donc que des conseils régionaux, des structures locales étaient victimes en fait
des municipalités
aussi. Saint-Étienne.
Oui. Alors Saint-Étienne, c'était déjà connu, mais là ce qui a été révélé, c'est le conseil général de la Seine-Saint-Denis. Où le nouveau président a découvert, bon, sans doute, enfin, où il a, disons, pris la mesure de la bombe à retardement que constituait l'endettement de sa commune, parce que les banques se sont mises effectivement à prêter aux communes avec des produits de prêt relativement sophistiqués, qu'on appelle des produits structurés, mais c'est vraiment une antiphrase, des formules d'endettement très sophistiquées, où les taux d'intérêt étaient indexés sur des choses absolument hallucinantes, du style, votre taux d'intérêt il sera indexé sur le cours du dollar ou sur le cours du yen, ou sur l'inflation aux États-Unis, voire même pour certains prêts sur les cours du pétrole. Bon, donc on est en train, entre guillemets, de découvrir cette affaire, mais pour certaines collectivités territoriales, c'est quand même pas, apparemment, c'est pas un phénomène d'une ampleur extraordinaire en France, mais pour un certain nombre d'entre elles, on est en train de découvrir que oui, 80 à 100% de leur dette a été structurée de cette façon-là. Et donc elles pourraient tout d'un coup, si ça tourne mal, si les taux d'intérêt partent dans le mauvais sens, se retrouver avec une charge, une augmentation de la charge de paiement des intérêts extrêmement brutale. Alors ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que tous ces contrats, quand vous en avez pris beaucoup, on peut espérer qu'ils partent pas dans le même sens. Que quand le dollar baisse, vous en avez un qui est indexé sur le dollar, pendant que les prix du pétrole montent, bon, que vous perdez d'un côté ce que vous gagnez de l'autre, mais c'est tout de même des bombes à retardement qui sont allumées à certains endroits, et ça laisse complètement rêveur sur l'état de la démocratie. Parce que on voit quand même là le choc entre les innovations économiques et financières et la capacité d'une société démocratique à maîtriser son environnement et sa société et les règles de fonctionnement de sa société. Donc c'est un choc assez frontal. Ça veut dire que nos élus n'étaient pas capables, et on peut les comprendre, de faire face à ce type de situation et de gérer rationnellement ce type d'offre. Bon, il faut pas le faire, tout simplement. Il faut pas le faire, et donc la démocratie doit être aussi capable de dire que la société ne doit pas se complexifier au point de ne plus pouvoir faire l'objet d'une décision démocratique ou d'une délibération raisonnable.
On va faire une petite pause peut-être. Petite pause musicale avec Natasha Atlas.
قلت لك يا جاري احملي الهوى قالتني امي معاكي حدا قالت لي يا امي اياك العيدة انت مش حدا ولا انت العيدة انت مش حدا ولا انت العيدة انت البلعاني رعب الزهر لا تعتب علي ضيعتنا هني طلعني الصهر يا خجلة علي لو يعرفوا في لو ما تمش علي لو ما قال قمر.
Natasha Atlas, un très bel album, son dernier album, Anna Hina. Magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. On est en compagnie de Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Guy et moi, nous l'interviewons, nous le cuisinons. On parle évidemment de la crise. Alors, un dernier aspect, peut-être une dernière conséquence de la situation actuelle sur les retraites, un mot là-dessus.
Bah oui, parce que je pense que c'est le bon moment pour rappeler que grâce aux manifestations importantes de 2005, du printemps 2005, on a tout de même échappé en France à la mise en place des fonds de pension et de la retraite par capitalisation. Je ne sais pas si on remerciera jamais les 2 millions de manifestants d'avoir, pour l'ensemble de leurs concitoyens, évité le pire, parce que quand on compare avec la situation des États-Unis, nous sommes passés à côté du pire. On estime à peu près aujourd'hui aux États-Unis que la chute des cours boursiers depuis 18 mois a fait perdre 2000 milliards d'euros de valorisation boursière à ses actions. Et donc, pour ceux qui croyaient que, en lisant le journal, leur retraite valait 4 à 5 000 milliards d'euros, eh ben, en le refermant, aujourd'hui, ça vaut plus que 3 000 ou 2 000. Et donc, quand vous interviewez les Américains, très concrètement, ils vous disent, bah, on est en train de calculer le nombre d'années supplémentaires qu'on va devoir travailler avant de pouvoir prendre notre retraite. Simplement, déjà, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais en plus, c'est pas quand la crise s'approfondit qu'on peut décider dans son petit coin de travailler 50 plus. Parce que c'est un petit peu contradictoire avec la dynamique économique qui se présente. Donc je pense que c'est une leçon importante. Peut-être qu'elle ne sera, elle sera oubliée dans 6 mois ou 18 mois. Et d'ailleurs, elle ne refait pas beaucoup surface. J'en suis assez étonné.
Tout en sachant qu'il y a quand même toujours une politique sur les retraites chez nous qui favorise le recours aux assurances privées.
Oui, exactement. À partir du moment où les règles de calcul des pensions sont de plus en plus défavorables, ça pousse ceux qui le peuvent, à épargner. Bon.
Où est la morale alors, hein, genre, ouais. Ou FMI peut-être, non?
On peut peut-être citer une information qu'avait donnée Pierre Calfa dans la conférence qu'il a donnée avec Attac à Arras il y a quelques semaines. Il parlait du fonds pour les retraites créé par Jospin, fonds de pension, mais collectif.
Collectif, oui.
Et il disait que ce fonds avait baissé de 25%. Hein, parce que c'était justement sous forme d'action, quoi. Hein.
Ouais, mais il était plutôt bien géré parce que les actions ont perdu 50%, donc il devait y avoir une part importante d'obligations dedans. Ouais.
Alors on revient donc là pour la dernière ligne droite sur les raisons de fond, les solutions de fond. Alors on parle de moraliser le capitalisme, le refonder. Cette crise, bon, on la présente comme crise financière, c'est aussi une crise économique. On imagine mal une crise financière suspendue comme ça, sans lien avec la réalité. Alors est-ce que c'est simplement une manière de fonctionner du capitalisme qui ne convient pas, ou est-ce que c'est bon en fait l'expression d'une contradiction qui est toujours là, inhérente à la manière dont l'économie est organisée, ce qu'on appelle le capitalisme?
Ça fait de belles questions. Je me souviens déjà plus de la première.
ce qui nous est présenté là maintenant, c'est l'idée. Bon, bah là, on fait face aux urgences.
Oui.
Et puis bon, alors je cite le discours de Sarkozy quand même, c'est il faut moraliser le capitalisme, ouais, pour ça. Sauver le capitalisme, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit aussi il faut refonder le capitalisme, et dans le même temps, d'un seul coup, alors que c'était des thèmes qui étaient totalement absents auparavant dans la bouche des gens qui sont dominants dans la société, on parle des paradis fiscaux quand même, c'est le langage des altermondialistes qui est d'un seul coup mis en avant. Oui, les paradis fiscaux, les stock options, les parachutes dorés.
Et ça, je suis assez content parce que j'avais en septembre terminé un petit papier dans le Monde diplomatique en disant quelque chose du genre notre sort est entre de bonnes mains et le pari qui nous reste à faire, c'est que nos dirigeants ou nos responsables, j'avais dû mettre responsable entre guillemets, changent rapidement les paroles des chansons qui les maintiendront au pouvoir. Et je pense qu'effectivement, heureusement que les gens retournent leur veste rapidement, parce que s'il fallait attendre le renouvellement d'une génération pour que les bons remèdes soient pris et que par exemple des gens comme nous arrivent au pouvoir, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il vaut quand même mieux que ce soit nos élites qui changent de veste. Alors mais jusqu'où retournent-ils leur veste? C'est ça la vraie question.
Et s'ils ne retournent pas simplement le discours, sans retourner leur veste? Parce que bon, d'après la démonstration qui a été faite dans notre discussion jusqu'à présent, c'est plutôt ça, quoi.
Alors moi je pense que ce qu'il faut dire, c'est que le discours de la moralisation, ça c'est une hypocrisie totale. D'accord? Je ne vois pas comment on peut rendre moraux des agents économiques à qui, de toute façon, on dit et on demande de déployer une rationalité économique dans leurs actions. Donc, attendre de ces agents qu'ils se comportent de manière morale, c'est-à-dire qu'ils renoncent à un gain lorsque légalement ils peuvent le faire, ça me paraît complètement stupide. Enfin, c'est même le degré zéro de la pensée politique et morale. Donc, ça peut pas venir d'une moralisation. Ça ne peut venir, et je pense que le discours est peut-être plus à prendre au sérieux si on parle de refondation. Bon, alors est-ce que c'est le capitalisme qu'il faut refonder? Personnellement, c'est pas forcément mon projet d'épanouissement personnel. Mais quand on parle de refondation, on est sans doute beaucoup plus sérieux. Mais jusqu'où on veut bien aller dans cette direction? Alors, il me semble qu'il peut y avoir deux gradients. Premier gradient, c'est effectivement essayer de redominer l'économie de casino qu'on a connue. Bon, c'est-à-dire tout ce qui s'est développé dans la sphère financière, bancaire, ultra-spéculative. Ça, c'est un premier point. Il vaudrait mieux qu'on aille au moins jusque-là. Mais il y a un deuxième gradient ou un deuxième scénario, et je doute qu'on aille jusque-là, qui est de défaire la pièce maîtresse qui était celle du capitalisme financiarisé. Ce capitalisme financiarisé a tourné autour de la domination de l'actionnaire sur l'entreprise. Retour de l'actionnaire qui a mis une quinzaine d'années à se faire à partir des années Reagan et qui fait que l'entreprise est devenue une pompe à alimenter soit la valorisation des actions, soit les dividendes des actionnaires. Et c'est ça qui est au cœur du système. Cette pompe, elle fait donc pression sur les salaires qui ne progressent plus. Elle met sous l'été noir l'investissement, qui est cantonné, l'investissement des entreprises, qui est cantonné à ces zones les plus juteuses, et puis ceux qui sont un peu plus risqués, et puis probablement un peu moins rentables, mais tout de même rentables, on les met pas en œuvre. Donc il y a un double frein qui est mis sur le développement économique, sur l'investissement et sur les salaires. Mais heureusement pour les actionnaires, ça s'est pas complètement retourné contre eux, parce qu'au niveau macroéconomique, ça aurait pu être mauvais. Ils font chuter la demande, donc ils font aussi chuter les profits des entreprises. Ça s'est pas retourné contre eux parce qu'il y a eu opportunément deux autres canaux qui se sont mis en route. Le canal des dividendes, en versant des dividendes aux actionnaires, il les consomme. Et donc ça fait boucler tout de même une partie de la dépense au niveau macroéconomique. Et puis les salaires qui avaient été mis en sommeil, finalement les salariés se sont endettés pour faire la jointure, en particulier pour acheter leur logement, leur bien de consommation. Donc c'est quand même un système qui poussait au crime des deux côtés et qui retrouvait comme conséquence l'endettement des ménages. Cette pièce-là, personne n'a dit qu'il allait jusqu'ici la desserrer. A-t-on entendu parler de desserrer les taux de la puissance actionnariale sur l'entreprise? Pour l'instant, il me semble qu'on n'en est pas là du tout.
Alors il y a une solution enfin qui a été avancée, c'est par rapport à ce qu'a fait le plan de l'État américain qui est de voler au secours d'une certaine manière du système bancaire, ce serait de prendre un plan tout à fait différent, ce qui est de voler au secours des gens qui sont en faillite, les ménages c'est-à-dire qui n'arrivent plus à rembourser, c'est-à-dire donc on lance bah bon c'est Roosevelt, enfin Roosevelt poussait à créer des grands travaux, à donner des possibilités aux gens d'avoir du pouvoir d'achat, etc. Parce qu'il était poussé par des grèves, etc. D'avoir une politique complètement différente, un peu le New Deal.
Oui, d'ailleurs le dispositif que l'État a créé pour financer les banques, il peut donner des idées. Pour pratiquer un New Deal sans complètement faire du déficit budgétaire trop important. Parce que finalement, comme l'État a une certaine facilité à lever l'épargne, à partir du moment où la qualité de sa signature est excellente, il pourrait très bien lever des fonds en s'endettant par cette structure et reprêter ces fonds à des conditions avantageuses à l'ensemble des entreprises qui s'engage dans une démarche de développement durable, qui s'engage dans un programme de création de transports collectifs efficaces, de création de ferroutage, d'économie d'énergie, de transformation des systèmes énergétiques, etc., etc. Donc là, effectivement, il me semble que ça vaut le coup de poser la question. Comment ça se fait-il qu'on peut trouver une dérivation dans le circuit de la finance pour trouver 350 milliards et qu'on n'arriverait pas à faire la même opération lorsqu'il s'agit de bonifier du crédit à l'adresse d'entreprises qui auraient des projets d'investissement tout à fait intéressants du point de vue d'un développement durable. Et puis là, ça aurait une certaine efficacité, parce que si on peut prêter à ces entreprises-là à des taux de 3 à 4%, au lieu des 15 à 20% de rentabilité exigée sur les fonds propres des entreprises par les actionnaires, je pense que ça peut avoir un sacré effet de levier pour réorienter la croissance. Donc il y a sans doute un bon coup à jouer au niveau d'un New Deal pour donner du contenu et de la qualité à une croissance future.
Alors reste la question, est-ce que ces crises, bon, qui se succèdent quand même depuis des années,
non, un rythme endiablé, oui.
Ouais, est-ce qu'elles sont inhérentes au système capitaliste? Bon, on dit que le système capitaliste, je reprends les termes de la conférence de Pierre Kalfa à Arras, c'est une des contradictions de fond du capitalisme, c'est que le capitaliste, il assoit sa plus-value en comprimant les salaires. Ça c'est une chose, mais pour qu'ils réalisent cette plus-value, encore faut-il qu'ils vendent les produits fabriqués et qu'ils les vendent donc à ses salariés entre guillemets, et donc il faut que ses salariés aient quand même un niveau de salaire suffisant. Alors donc ce que disait Pierre Kalfa, c'est il y a eu une solution qui a été trouvée, la solution un peu keynésienne du Fordiste, où on redistribue d'une certaine manière les richesses qui permettent qu'il y ait un cycle vertueux. Mmh. Hein, et cette période est arrivée à son terme. Alors pour quelles raisons ?
C'est très compliqué.
Chute des taux de profit, les entreprises devenues ingouvernables par les révoltes ouvrières, bon, etc., etc. Donc on a une période qui est inaugurée avec Thatcher et puis Reagan, où on attaque les salaires, on attaque directement le salariat. On essaye de restaurer le taux de profit et on investit non pas dans l'appareil productif, mais dans la finance.
Oui.
Et c'est l'aspect de la financiarisation et qui expliquerait la crise actuelle. Donc on pourrait dire la refondation du système capitaliste, alors je sais pas si Sarkozy va jusque-là, ça m'étonnerait quand même, mais ce serait de retrouver un nouveau compromis social dans lequel il y ait redistribution des richesses. Bon, on dit que par exemple aux États-Unis, on est revenu à la répartition des richesses de la fin du 19e siècle.
Oui,
c'est hallucinant.
C'est complètement hallucinant.
La période, attends, pour compléter un peu, donc la période à laquelle tu fais référence, genre, c'est les 30 Glorieuses, grosso modo. Et quand même, apparemment, c'est la période la plus longue où il n'y a pas eu de crise
Bah oui, c'est pour ça que ma réponse à cette question, c'est il n'y a pas de fatalité. Il y a eu des périodes dans lesquelles on a réussi à domestiquer la finance, on a réussi à domestiquer la monnaie, et on a plus ou moins réussi effectivement à instaurer ou à créer les conditions d'un compromis social qui débouche sur un résultat plutôt coopératif. Il y a du conflit, mais ce conflit trouve une issue par le haut, dans la croissance, une meilleure répartition des revenus et surtout une dynamique très forte de l'investissement. Parce que j'ai tendance à penser que les profits des entreprises ne se réalisent que par les investissements de demain. Enfin, ou une autre manière de dire, le capital investi hier se rentabilise par les dépenses d'investissement de demain. Mais Jean, je vois ta tête, ça fait 5 fois que j'ai essayé de t'expliquer. T'es toujours pas d'accord. Bon, mais donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité à avoir une finance de casino qui bouleverse l'économie. Simplement, il n'y a pas non plus de garantie que si demain on mettait des Keynésiens au pouvoir, tout d'un coup le capitalisme deviendrait une partie de mare. Au contraire, il y a toujours du conflit et nous n'avons jamais la garantie du plein emploi dans ce système. Nous n'avons jamais la garantie du plein emploi parce que, et donc d'une croissance régulière des revenus, parce que le système n'est pas spontanément orienté pour produire ce résultat. Et ça, c'est une propriété d'une société capitaliste. Donc voilà, c'est sûr que si on essaye de faire fonctionner l'économie de manière, on va dire, anti-keynésienne ou anti-fordienne, on est à peu près sûr du résultat, c'est un résultat très mauvais. Mais c'est pas parce qu'on essaye de la faire bien fonctionner qu'on va avoir un résultat idyllique. Et en plus, il y a aujourd'hui quand même une donne qu'il faut prendre sérieusement en compte. Comment envisager une croissance, disons, qualitative, en termes social, environnemental, et non pas une croissance de type multiplication des marchandises et des pollutions et épuisement des ressources naturelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire de l'investissement tirerait cette croissance, mais de l'investissement écologique, environnemental, ayant un fort contenu social. Je pense que c'est ce type de question qu'il faut se poser quand on dit refonder le capitalisme. Si c'est le projet qu'on veut tendre à nos petits-enfants.
Mais pour aller un peu plus loin, là, rebondir sur ce que tu disais, du point de vue des capitalistes, est-ce qu'il vaudrait pas mieux quand même une période comme les 30 Glorieuses plutôt que les périodes qui suivent avec ces crises, avec bon des risques, beaucoup plus de risques pour les capitalistes, hein. J'entends bien ce que tu dis, on sait que l'anti-fordisme, l'anti-keynésianisme, ça marche pas, mais que bon le fordisme ou le keynésianisme, ça marcherait pas forcément, mais en tout cas pour les capitalistes, apparemment, c'est quand même plus tranquille.
Le résultat pourrait être coopératif, donc y compris eux-mêmes pourraient tirer leur épingle du jeu, mais dans les capitalistes, il faudrait distinguer entre les dirigeants des entreprises, le management, la technostructure, c'est-à-dire ceux qui font tourner les entreprises avec les salariés, et puis les actionnaires. Et je pense que dans la période fordiste, les actionnaires n'étaient pas aussi bien traités que ce qu'ils sont traités maintenant. Bon, et justement, le règne de l'actionnaire avait été interrompu dans cette période-là, c'est la technostructure qui avait pris le pouvoir dans les entreprises et qui les avait gérées en fonction d'objectifs qui étaient plutôt du type faire croître l'empire le plus rapidement possible, mais pas forcément dégager les rentabilités les plus faramineuses pour l'actionnaire. Donc voilà, quel capitaliste ? Si on parle de l'actionnaire, il n'a pas forcément intérêt à un régime de type coopératif.
On va s'arrêter là. Peut-être un mot, parce qu'on se reverra pas avant un mois, peut-être, Laurent.
Surtout que ça se calme vraiment là.
Alors d'ici là, il y aura eu les élections
américaines.
Ouais. Un pronostic. Est-ce que ça peut changer quelque chose si Obama
Il y avait un article dans le Monde diplomatique qui semblait dire que du point de vue de son positionnement international et du point de vue de sa relation à l'empire américain et à son impérialisme, c'était peut-être pas très différent de ce qui s'était passé avant, mais sans doute que du point de vue social et fiscal, pour les Américains, ça se passera quand même mieux qu'avec Bush.
Et un mot sur le traitement médiatique hein, de la crise et des avancées. Donc tu le dis, on en parle moins. Ouais, ça va être rapide, Jean, t'inquiète pas. Et toi, bon, Laurent, t'as pas mal été sollicité depuis ton passage ici. Bon, il y a l'article dans Le Monde Diplomatique, t'as eu un article dans l'Humanité, t'es dans La Voix du Nord, t'es passé aux radios. Donc là, qu'est-ce que tu nous prépares pour le mois qui vient comme intervention dans les médias?
Bah, moi, j'attends que ça se calme, hein, justement. J'aurais dû répondre. Il va y avoir un numéro de Manière de voir du Monde Diplomatique qui sort mi-novembre et qui est entièrement consacré à la crise financière et dont l'introduction est faite par votre serviteur. Voilà Guy, c'est ça que tu voulais entendre.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 12h30. Et n'oubliez pas, sur le net, radiopfm.com. Salut !